France Inter, 8h23.
France Inter, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et l'invité du grand entretien de la matinale est aujourd'hui le président du parc et de la grande halle de la Villette, directeur artistique de la 18e Nuit Blanche qui va se dérouler ce week-end à Paris. On va donc parler d'art, de culture, d'autres diraient de loisirs et de fêtes. Quoi qu'il en soit, j'attends vos questions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile d'Inter. Didier Fusilier, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être à notre micro ce matin. 18 ans, 18 ballets, c'est la majorité pour cette manifestation d'art contemporain, publique, gratuite. Elle est née à Paris, puis elle a essaimé dans le monde. 34 villes font des nuits blanches. Le dernier pays en date à en organiser une, c'est le Kosovo, il y a quelques semaines. Redites-nous, pour commencer, puisqu'on célèbre un anniversaire, quelle était l'idée de base? L'idée, c'était de sortir l'art des musées pour le transporter dans les rues. C'était de couler l'art contemporain dans les codes et l'ambiance d'une fête populaire. C'était quoi au début?
Vous savez, c'est une idée de Christophe Girard, qui est maire adjoint à la culture à Paris, avec à l'époque Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo, bien sûr, de se dire, allez, pendant une nuit, on y va, on ouvre toutes les portes, on ouvre surtout des bâtiments qu'on ne visite jamais, et à l'intérieur, des artistes imaginent des concepts, mais qui n'ont lieu que pour nuit. Et ça, je crois que, pour moi, il y a des œuvres qu'on voit dans des expositions pendant 3 mois, des spectacles aussi qui durent longtemps, mais là, c'est vraiment 19h, et on sait que ça se termine à 6h du matin, et que sans doute, on n'aura plus jamais l'occasion de revoir en tout cas ces œuvres, ces idées artistiques, une autre fois dans sa vie. Donc il y a cette rareté, il y a aussi le fait d'être ensemble, de sortir entre amis.
Voilà, être dehors.
D'être dehors. Et d'être dehors, c'est, ça a l'air de rien, mais d'être dehors
ça
à Paris...
Ça veut dire quoi? Pourquoi c'est pas rien d'être
parce
dehors?
Qu'on se couche pas tous les jours à 5h du matin,
à 6h. Oui, je le confirme, oui. Jamais même.
Et donc, et c'est beau d'être à Paris à 4h ou 5h du matin, et surtout d'être dans des endroits qui font partie de notre vie, même quand on n'est pas à Paris. Moi, je ne suis pas parisien, je suis souvent venu dans des nuits blanches, je les ai quasiment faites toutes, parce qu'à chaque fois, il y a un directeur artistique différent. Et vraiment, j'ai des éblouissements... J'ai encore des images de beauté. Valbuena à la gare de Sali, c'était Gonzalez qui avait fait ça. Enfin, je crois que toute ma vie, je me souviendrai de ça, de ce qui se passait à la Bibliothèque Nationale de France. Donc, on est dans ces lieux patrimoniaux splendides et il se passe quelque chose d'intime aussi, qui vous concerne, vous, avec votre culture.
Cette année, un tronçon du périphérique parisien, qui est une autoroute urbaine, rappelons-le, va être fermé à la circulation des voitures réservées au vélo, mobilité douce, comme on dit. Qu'est-ce qui va se passer sur ce morceau de périphérique fermé?
Mais avec Jean-Marc Scollard qui m'assiste sur qui est au centre Pompidou, qui m'assiste sur le côté artistique de la nuit blanche, nous avons en fait imaginé une grande nuit blanche en mouvement pour éviter qu'il y ait 3 heures de queue pour entrer dans un bâtiment. Là, vous avez une grande parade rue de Rivoli, parade de fête absolument étonnante. Vous avez effectivement sur le vélodrome, enfin ce que nous appelons le vélodrome, voilà. C'est-à-dire c'est le périphérique que l'on connaît et qui pose toujours question. Là, on va pour les débats autour qu'est-ce qu'on va faire de ce périphérique, voilà. Qui coupe un peu finalement
sujet hyper sensible, oui. À Paris, et qui va être l'un des sujets à mon avis déterminants de l'élection municipale qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait du périphérique, à quelle vitesse on y roule, quel statut a-t-il? Donc la nuit blanche, c'est la répétition générale et politique du Paris de demain.
Je ne sais pas, en tout cas, Anne Hidalgo avait très envie qu'on réfléchisse à ce périphérique, qu'on tente quelque chose. Et la nuit blanche, finalement, c'est parfait, parce que vous savez, le périphérique est souvent fermé par tronçon quand même. Il faut le réparer, le nettoyer, donc c'est pas si compliqué de le fermer. Sauf que le fermer une nuit, pour faire entrer du public, finalement, pour autre chose que de conduire en voiture, c'est ça qui était assez compliqué, en fait. Et donc là, l'idée, c'est de faire un vélodrome. Donc vous arrivez avec votre vélo, il y aura aussi des vélos en bas, et puis on va vous équiper de petits LED, enfin de...
Petites lumières.
Petite lumière, et surtout 1024 architectures, un grand groupe de jeunes architectes a imaginé un dispositif lumineux assez étonnant, puisque en fait nous serons entre la porte des Lilas et la porte de la Villette sur la partie haute du périphérique, et franchement Vous avez une vision incroyable de Paris. Vous avez le Sacré-Cœur, vous avez Lourdes, vous avez Pantin, vous avez tout Paris devant vous, et là, vous serez à vélo sur ce vélodrome, parce que moi, ça a été un rêve toute ma vie de faire des tours de vélodrome. D'ailleurs, vous tournez, enfin, c'est la boucle, elle fait 1 kilomètre. Donc, et puis, il y aura un parcours avec vos enfants, si vous voulez, pour que ça soit plus protégé. Il y aura des courses à partir de 2 heures, il y aura des critériums. Enfin, vous savez, ces ambiances des vélodromes, en fait.
Voilà, d'un autre siècle,
d'un autre siècle, avec des orchestres, des musiciens, avec des choses très étonnant. Vous aurez des casques aussi pour les piétons, parce que les piétons peuvent venir aussi. Et alors certains seront dans sur de trucs méditatifs et d'autres à côté dans de la musique techno, mais en casque. Donc il va y avoir tous ces mouvements. Enfin, je pense qu'on va, ça va être une expérience.
Encore une question sur l'aspect mairie de Paris. C'est la mairie de Paris qui est organisatrice de la Nuit Blanche. Les municipales, je le disais, arrivent à grande vitesse. La campagne risque d'être féroce. Cette Nuit Blanche, c'est la dernière du mandat d'Anne Hidalgo, mais est-ce qu'elle est aussi la première de sa campagne. Ne me dites pas que la question politique n'a pas traversé les esprits quand vous vous êtes mis à réfléchir sur l'édition 2019 de la Nuit Blanche.
En fait, c'est la 18e édition, effectivement, mais c'est la première, on peut dire, c'est ce que dit souvent Christophe Girard, d'un nouveau type de Nuit Blanche, puisque là, vous avez quand même une quinzaine de villes de la grande métropole qui vont être là. Il y a Aubervilliers qui fait partie, Gennevilliers, Rueil-Malmaison, Nanterre, Vincennes, et donc vous avez plus de 30 villes qui vont avoir un projet pour la première fois Nuit Blanche. Plus les 36 villes dans le monde, hein, parce qu'il y a Kyoto en même temps, il y a Mexico aussi. Enfin, c'est un mouvement intéressant, un mouvement d'art
et
pour
là,
les villes.
Et alors là, d'un point de vue politique, vous savez que ces choses-là sont éminemment politiques, vous avez quelque chose à nous dire ?
Non, parce que moi, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'imaginer comment un public qui ne va pas forcément toujours au musée va être confronté à des expériences artistiques. Réellement, on est plutôt parti sur Paris, sur évidemment la vision peut avoir la maire de Paris, parce que elle m'avait dit il y a très longtemps, tu vois, un jour sur cette rue de la Haute Rivoli, il faudrait qu'on retrouve les grandes parades comme on voit dans les Enfants du Paradis, dans les grands films, vous savez.
Et alors c'est ce qui va se passer, Didier Fusilier, une parade. Expliquez-nous entre Bastille et Concorde, hein, c'est ça.
Concorde et Bastille,
c'est dans l'autre sens, effectivement. De mémoire, il n'y en a pas eu à Paris depuis 1989 et le bicentenaire de la Révolution française. Oui, il y avait une grande parade sur les Champs-Élysées.
Ça, c'était Jean-Paul Goude, voilà. Qui reste dans les mémoires. Moi, c'est pour moi un dieu vivant. Avoir réussi, je l'avais vu. J'étais plus jeune, mais c'était un choc. Hein. Puis ça s'est terminé sur Jesse Norman. Il y avait cette locomotive. Enfin, vous voyez, là, toujours pareil. On a ces images qui vous peuplent votre mémoire de choc artistique. Et bon,
et
il y a aussi
là,
les technoparades aussi.
Oui, bien sûr.
Il y a
des parades
à Paris, hein, bien sûr.
Mais là, sous cette forme, on verra
artistique.
On verra quoi ?
Alors, vous allez voir quoi ? Une vingtaine de chars, on peut dire ça comme ça. Vous savez, comme à Nice, comme les grands chars de parade, mais réalisés par des artistes. Alors, vous avez Daniel Buren qui fait 2 miroirs qui vont faire en sorte que les bâtiments derrière vous... En fait, c'est une sorte de bateau-mouche, mais sur la rue. Et donc, le bâtiment derrière vous va faire comme s'il s'effondrait. Ça va être très... Enfin, en tout cas, il sera penché. Vous avez Vivien Roubaud, un de nos très jeunes artistes, qui va propulser de la barbe à papa à 30 mètres de haut... et qui va retomber en filament. On a essayé hier, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Il y a Annette Messager, Pascal Martine Taillou, qui fait une forêt peuplée d'esprits de la forêt, qui vient de ses souvenirs du Cameroun. Et donc, ce sont des grands artistes qui ont imaginé des gens de théâtre, comme Sophie Pérez avec le Zéreb, donc des bribes de pièces de théâtre qui passent. Donc, c'est vraiment une parade, avec 1100 artistes quand même, beaucoup de musiciens. C'est la parade des orchestres de Berlioz. Vous savez, Berlioz avait fait ça, sa symphonie funèbre et héroïque. Elle a été faite en 1840 avec des orchestres qui ont convergé vers Bastille, donc on est reparti tout ça.
Didier Fusilier, nous recevions cette semaine Fabrice Lucchini, grand admirateur, grand lecteur de Philippe Muret, cet intellectuel qui avait fustigé le devenir festif du réel. Tout se dissout dans l'effervescence de la fête, disait-il. Que répondez-vous ? Vous avez décrit là, depuis le début de cet entretien, un univers festif, un univers de parade. Que répondez-vous à cette critique qui dit quand même quelque chose de vrai sur l'époque ? Est-ce que vous assumez le mélange art, culture, loisir, fiesta ?
Mais vous savez, moi je viens du Nord, donc j'étais pétri par ça. À Lille, les grandes fêtes de Lille que nous avons pu organiser avec Martine Aubry depuis Lille 2004, ont réuni des publics qui ne se voyait jamais, en fait. Parce qu'une parade, c'est tout le monde au même niveau. Par exemple, à Paris, il n'y a pas un gradin pour les VIP. Non, tout le monde sera au même endroit, quelque part dans la rue. Et je crois que ces moments très importants de l'IS, où on se retrouve simplement pour des événements où chacun prend sa part, et beaucoup de bénévoles, et très importante avec de grands artistes. C'est-à-dire, vous savez, moi aussi, on peut citer d'autres intellectuels. Richard Schusterman, le grand philosophe américain, dit parfois, il y a très peu de différence entre l'art noble et l'art dit populaire. Il y a des œuvres populaires qui sont magnifiques et des œuvres dites d'art noble qui sont de l'ordre du ridicule. Donc je pense que créer cette fusion, et notamment dans le cadre de la Nuit Blanche, c'est-à-dire de moments un peu suspendus, ça ne nous empêche pas d'aller dans les musées. Par exemple, la Grande Traversée, c'est 20 000 personnes qui vont traverser le Louvre, le Centre Pompidou, le Musée de l'Homme... avec un dossard, donc c'est aussi l'idée olympique et la nôtre. Donc on va visiter des musées. Alors on peut être critiqué, mais si vous voulez visiter le musée en temps normal, vous y allez la veille ou le lendemain et tout le temps. Mais pendant ce temps-là, ce sera de l'ordre de l'éblouissement.
Est-ce qu'on peut dire que la fête est peut-être aujourd'hui le moyen moderne d'accéder aux formes les plus contemporaines de l'art? Un véhicule, un vecteur?
Oui, un vecteur, en tout cas une porte d'entrée. Vous savez, c'est Bourdieu qui le dit très simplement. C'est-à-dire, le problème de l'art, ça n'est pas l'œuvre elle-même, c'est pas le musée, c'est la porte. Comment on franchit la porte? Alors, il y a différents moyens de la franchir cette porte. C'est être ébloui, par exemple, Pierre Béchamel qui va faire cette œuvre incroyable dans la congrégation du Saint-Esprit qui n'a jamais été ouverte au public. Le Père l'ouvre pour ce moment-là où il y aura cette cloche où vont résonner tous les bruits du monde. Bon, ben, je suis sûr que les personnes qui vont voir ça vont avoir un sentiment de l'ordre du sacré, pas religieux, du sacré, de quelque chose de plus grand que soi. Et ça va nous influencer. Et cette œuvre-là, on ne pourrait pas l'imaginer plus qu'une nuit.
Le ministre de la Culture, Franck Riester, vous a demandé de plancher sur la création de 1000 maisons folies en France d'ici 2022. Ce sont, je le dis dans mes mots, des micro-musées où seront projetées les images de chefs-d'œuvre appartenant à différents grands musées français. Comme on peut pas ni tous se déplacer au même endroit ou faire voyager les œuvres, c'est l'image donc qui sera projetée. Il y a quelque chose de vertigineux dans cette démarche, Didier Fusilier, dont on se demande si elle est un moyen commode, moderne, de partager un patrimoine artistique, ou si elle marque le triomphe abyssal de la société des images et des écrans.
Alors, en fait, c'est une sorte de petite maison de la culture. Pour des endroits, il n'y en a pas. Donc, on est à Sevran, on est à Villiers-le-Bel, on est à Bastia, on est aussi à Lille, à Metz, à Carignan, dans les Ardennes, à Livrade-sur-Lot. Donc, des petites villes. On va être bientôt à Cozzano, en Corse, un petit village de montagne de 260 habitants. Et l'idée, c'est de créer un grand réseau. C'est ce qu'a vraiment souhaité le président de la République aussi quand il est venu au Murau. Il a vu ça. Il avait un petit garçon à côté de lui de 10 ans qui n'était jamais allé dans aucun musée et qui lui racontait, en le tutoyant, qu'il dit, est-ce que tu sais, il s'adresse au président de la République, que la Joconde n'a pas de sourcils. Et le président, comme nous tous, on le savait pareil, l'enfant en zoomant parce qu'il avait lu les cartels préparés par les conservateurs du Louvre, il savait ces petits secrets là qui vous permettent effectivement d'avoir une approche des œuvres qui vous donne une envie, parce que quand les enfants dans toutes ces villes, ou franchement à Sevran, il y a un collège à côté, on a fait un test sur tous les enfants de 3e quand nous avons ouvert la première il y a 2 ans et demi. Maintenant, on est à 60. On va être à 200 à la fin de l'année. Ça va très, très vite. Eh bien, aucun enfant de 3e n'était jamais allé dans aucun musée. C'est pas au Louvre, aucun musée. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que s'ils n'y vont pas à cet âge-là, en gros, ils n'ont quasi aucune chance d'y aller une fois dans leur vie.
Donc, l'idée, c'est après avoir...
C'est créer ce choc-là.
Créer, voilà, un choc. Et puis, après avoir créé de grands établissements, après leur avoir donné un statut particulier, les très grands musées que sont Orsay, le Louvre et évidemment tous les autres de France. Là, c'est faire du petit point en quelque sorte et changer d'échelle, avoir de tout petits établissements qui permettent d'établir un premier contact avec l'art, c'est ça?
Avec les grands, parce que évidemment, dans ce musée numérique qui présente les œuvres, mais dans des définitions d'images que vous n'avez, enfin, inimaginables, en 4K, en résolution, d'une façon incroyable. La grande odalisque, dingue, vous voyez ça arriver, ou les grands tableaux de Véronèse, mais vous n'y croyez même pas. Il y a 76 animaux dans le tableau de Véronèse. enfin, vous vous dites, mais vous allez chercher les perruques. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir, en fait. Et vous êtes au pied de chez vous. Dans une, nous, on est dans un, dans des bibliothèques, on est dans des églises, dans la Creuse, par exemple, dans un salon de coiffure à Auxerre. C'est-à-dire, vous savez, moi, je crois que la culture, c'est aussi une forme de guérilla. C'est-à-dire, dans ce monde très dur dans lequel on est aujourd'hui, où les gens ont de plus en plus de mal à se rencontrer, où ils sont souvent sur des tablettes, où on leur dit, bah, les œuvres d'art, regardez-les sur votre ordinateur. Nous, on dit le contraire. Venez dans les microfolies pour découvrir ces trésors qui viennent du Louvre, de Versailles, du musée Picasso. Mais aussi toutes les symphonies de Beethoven. La Philharmonie a quand même, quand vous, écoutez, je vous promets, vous voyez la cinquième de Beethoven, vous l'entendez, avec 15 caméras qui ont filmé avec un son hi-fi hallucinant, vous êtes pétrifié. Ou les images de Versailles, des bosquets de Versailles, vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller voir Versailles. Et les enfants, quand ils voient la Joconde, qu'ils n'ont jamais vue au Louvre, la première question, et c'est très beau, ils nous disent, mais elle est comment en vrai la Joconde? Et alors on leur dit, bah, c'est pas très grand la Joconde, hein, c'est un tout petit tableau. Et il y a une fascination. Et alors, ils veulent pas aller au Louvre. Ils veulent aller voir la Joconde. Et nous, on leur permet, parce que c'est le but, évidemment, c'est de les emmener au musée. C'est qu'on les accompagne pour, justement, qu'ils n'aient plus peur de ça.
Benjamin est au standard, dialoguer avec Didier Fusilier. Bonjour Benjamin, soyez le bienvenu.
Bonjour Nicolas Demorand, bonjour France Inter. Justement, vous évoquez Philippe Muret. Il évoque largement les parades et les défilés, des défilés les plus baroques et les plus absurdes qui soient. Est-ce que vous n'êtes pas tombé dans la caricature entre le défilé de la rue de Rivoli et les vélos à diode et à LED sur le périphérique?
Merci Benjamin pour cette question. Didier Fusilier, précisez la réponse que vous me faisiez tout à l'heure. Caricature, dit notre auditeur.
Mais je crois que je peux entendre, hein, et c'est vrai que sur le papier comme ça, on se dit, bon, c'est ridicule, on mélange encore tout. Mais vous savez, il y a de moins en moins de fêtes. Moi, j'avais été surpris à Lille. Les fêtes avaient disparu, il y avait beaucoup de fêtes. Et on se rend compte que les liens qui nous unissent, il faut qu'ils apparaissent dans les fêtes. Souvent, ce sont des moments où on va rencontrer des personnes qu'on n'a aucune possibilité de rencontrer à aucun autre moment de la société. Et je pense qu'il faut les voir. Je pense que quand on voit, vous savez, vous n'auriez pas des artistes aussi importants qu'Annette Messager, qui va faire cette tente avec des personnages mi-animaux, mi-végétaux, mi-hommes. Moi, j'ai vu ça. Il y a un trouble, il y a quelque chose qui se passe. Et je pense qu'elle a dit, oui, très bien, on va faire ça sur un char qui va bouger, comme Daniel Buren. Enfin, quand c'est... vous avez Julien Creuset, ce jeune artiste, qui parle justement de l'esclavage.
Vous dites, la fête est une porte d'entrée, comme vous le disiez tout à l'heure.
Oui, c'est une porte d'entrée, mais ce ne sont pas des œuvres faciles. Je crois que les personnes qui vont voir arriver ces fêtes, c'est pas de la rigolade. Elles portent un moment du monde, elles portent un moment d'un instantané du monde qui va passer devant vous, et qui va passer avec une image fugitive, certes, mais qui est une œuvre d'art. Alors, il y a l'art, c'est pas simplement une statue dans un musée ou un tableau. Ça a quand même, heureusement, des formes qui ont évolué. Et ces formes-là, elles peuvent aussi être dans la rue.
Alors, parlons d'une statue qui a eu du mal à trouver sa place. C'est Claude, sur l'application France Inter, qui vous demande ce que vous pensez de la polémique autour de ce bouquet de tulipes de Jeff Koons, œuvre monumentale offerte par l'artiste à Paris après la vague d'attentats de 2015, itinérante, elle va finalement atterrir du côté des Champs-Élysées. Qu'en pensez-vous, Didier Fusilier ?
Là, c'est quasiment une parade des tulipes, oui, parce qu'elle avait quand même virtuellement bougé un peu dans Paris, quoi. Même à la Villette, on l'avait imaginé qu'elle puisse être. J'avais reçu d'ailleurs Jeff Koons avec Françoise Nyssen. Écoutez, après, on pense, c'est toujours pareil. Ce qu'on veut de l'artiste, on trouve ça nul de faire en faux ballon un caniche. Enfin, on peut y aller. Mais il apparaît que c'est quand même un artiste dont la pensée est forte et puissante.
Il y a eu comme le sentiment d'une obscénité. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai, oui. Enfin, ces tulipes-là, c'est pas n'importe quelle tulipe. Elles sont monumentales et de fait, l'œuvre n'a pas trouvé naturellement sa place.
Elle n'a pas trouvé sa place parce qu'effectivement, elle avait été prévue par un endroit qui n'était pas envisageable, c'est-à-dire au Trocadéro. Enfin, moi, je suis pas là pour défendre les tulipes de Jeff Koons, évidemment. Hein. C'est un projet qui, effectivement, qui rentre dans un cadre très spécial d'un hommage aux attentats qu'il y a eu en France sur un groupe américain. Au Bataclan, c'était quand même un très grand groupe américain. Donc, c'était un drame terrible. Donc, il y a eu ce geste. Bon, alors après, c'est toujours pareil. Mais bon, on verra. L'œuvre va être inaugurée prochainement. Mmh. Il y aura les pour, les contre. Il a bien expliqué aussi. Il y a 9 tulipes. Enfin, il y a des codes. C'est pas aussi simple que ça. Je pense que franchement, on sera sans doute troublé. Alors, à voir comment elles vont être.
Autre question sur l'application France Inter. Michel, 8,5 millions de livres plus les frais, 11,1 millions pour un Banksy hier. Est-ce obscène?
Ah ça, le marché de l'art, c'est...
Quand vous voyez ça, vous dites on est tous devenus fous ou...
Non,
c'est un marché comme un autre.
Nous non. Enfin, on peut s'acheter des yachts, on peut s'acheter. Quand on voit le prix du mètre carré à Paris, est-ce qu'on peut pas trouver ça obscène aussi? Enfin, et quand on voit celui du mètre carré à Londres, si vous voulez, nous sommes dans une époque aussi d'une certaine démesure. Effectivement, qu'on peut regretter quand on voit aussi tout ce qui circule dans des réseaux sociaux. Enfin, c'est cette masse invraisemblable de choses. Est-ce que ça peut nous concerner? Est-ce que ce marché de l'art là nous concerne nous? Est-ce qu'il n'est pas une enveloppe à part de quelque chose qui participe d'un autre monde parallèle. Banksy, c'est aussi à côté de ça. On a un projet à la Villette que j'espère pouvoir réaliser autour de lui. C'est un personnage très intense parce que vous savez, on vient de finir Toutankhamon qui a eu un succès phénoménal. À la Villette. Il n'a pas eu un succès phénoménal pour rien. On sortait de cette intimité d'un pharaon, quelque chose qui date de 3500 ans, avec des œuvres intactes, extrêmement troublées. Enfin, tous les gens sont sortis troublés de ça. Et quand vous voyez des œuvres de Banksy, cette dernière œuvre qu'il vient de faire, par exemple, qu'on a d'ailleurs vu beaucoup dans les choses comme Le Monde, Libé, c'est cette image du Parlement britannique, de primate, c'est quand même, on la regarde et on se dit, et je vous promets que cette petite fille au ballon, elle vous hante pour le restant de vos jours.
Vous donc, allez faire une expo avec lui donc à la Villette?
Bah, écoutez, on est en train d'en discuter parce que ça n'est pas un artiste facile. On ne le connaît pas, on n'a pas de rapport avec lui.
Et vous discutez comment alors? Et puisque personne ne connaît effectivement.
Avec des personnes qui sont en lien avec lui pour éviter de présenter n'importe quoi et surtout que ce soit des œuvres autorisées par l'artiste lui-même, qu'il est parce que sinon évidemment dans un établissement public on ne peut pas le faire. Mais si on y parvient. Je crois que le public va découvrir. Alors là, pour le coup, vraiment, un artiste qui parle de nous maintenant. Je ne sais pas comment, par exemple, on verra son œuvre dans 200 ans ou 1000 ans. Mais là, en tout cas, maintenant, ça nous parle.
Une question de Pauline que je vais vous lire. Pauline se dit outrée que vous construisiez des maisons folies pour présenter des œuvres numérisées plutôt que d'envoyer les enfants au musée. Pourquoi pas plutôt financer des transports gratuits que des maisons de ce type?
Mais c'est ce qu'on fait. Si votre auditrice nous a bien écouté, en fait, on crée une porte, on présente les œuvres, on les rend irrésistibles. Des enfants, Catherine Pégard, la présidente de Versailles, racontait qu'elle avait accueilli 200 personnes, quand même 200 personnes de Sevran, dont les bus avaient été payés par la ville de Sevran, les billets offerts par le château de Versailles. Et les enfants montant le grand escalier d'honneur de Versailles disent à la présidente, est-ce qu'on peut aller à gauche voir la chambre du roi? Et elle-même ne savait pas qu'elle était à gauche, mais eux avaient tellement étudié à la maison folie, à la microfolie de Sevran, le plan de Versailles, qu'il le savait, il connaissait le petit chemin. Et ça, voyez-vous, ces portes-là sont capitales. Parce que à Sevran, il faut 21 minutes pour aller au Louvre. Les jeunes de moins de 18 ans y rentrent gratuitement et ils ont le RER gratuit et ils n'y vont pas. C'est ça la vraie question à se poser.
Merci Didier Fusilier et bonne nuit blanche.
Bah oui, on va commencer maintenant.
Voilà, elle va être longue et bravo encore pour l'exposition Toutankhamon qui est à ce jour, je crois, la plus visitée de l'histoire des expositions en France.
Oui.
Et c'est ça, un peu plus d'un million et demi.
C'est ça.
Merci de personne, j'ai pas parlé d'euros. Merci.